nuestro pueblo, nuestra vida, el canto de los ancestros, la vertiente, el porvenir. Desembarcadés qui viennent créer l'inquiétude, des danses, des mélodies en provenance du sud, accompagnées de poèmes qui te parlent de négritude, de liberté, de résistance à la servitude. Des traces de fouet, des pôles acérés, menottes sectionnées, géoles incendiées, des noms, des visages, des sources d'inspiration, des mots, des uppercuts et de l'amour à foison. Yes, Genoubi, tu es si jolie, convoité. Yes, Genoubi, qu'ils t'ont pillé, dévalisé. Ils ont organisé le plus grand des hold-up. Ils ont fait de nous une race, mais on a fait de nous un peuple. Des bidonvilles de Nanterre à la jungle de Calais, des tangibles d'Afrique du Sud au territoire Mapuche, des bateaux négriers à la Palestine occupée. Soudaka del mundo, nos destins sont liés.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regard d'ailleurs. Regard d'ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde à travers différents parcours de vie, à travers différentes expériences. Donc j'aime bien donner la parole à des écrivains, des réalisateurs, des photographes, des voyageurs en sens large, donc voyageurs mobiles ou immobiles. La vie est un voyage, donc voilà, l'idée c'est de prendre ce temps pour te connecter. Arthur, savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Donc je sais que là tu es sur un festival où je t'ai rencontré. Un festival peuple racine ou festival du chamanisme où tu as différentes délégations qui sont là pour venir présenter un petit peu leur culture et leur tradition. On vit quand même dans un monde où on souffre d'une soif d'essentiel, une famine de l'essentiel. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui les gens se reconnectent à quelque chose de plus simple, en tout cas au langage de la planète, de la Terre. Et souvent les peuples racines sont là pour nous rappeler d'où on vient. Alors que souvent nous en Occident on s'est un petit peu perdu en pensant que le progrès allait nous libérer. Il a fait plutôt une sorte de prison dorée dans laquelle on s'est retrouvé complètement bloqué, sclérosé et des fois sans se rendre réellement compte. Bref, Arthur, donc toi, je sais pas grand chose si ce n'est que tu vis en ce moment au Pérou. Donc on va revenir un peu sur ton itinéraire personnel. À quel moment tu as eu envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs, au-delà de ta culture, de ta famille, de tes connaissances, des croyances que tu as pu avoir ici en France?
Ouais, merci Alexandre, c'est un vrai plaisir d'être avec toi. Et je suis un fan de ton travail, donc c'est un honneur. Je vais essayer de partager mon expérience. Et donc moi je suis né dans une grande ville française, j'ai eu la chance de voyager assez tôt avec mes parents dans différents pays du monde. J'ai de la famille qui vit en Amérique latine et j'ai très rapidement, dès que j'ai commencé mes études et que ça se passait pas comme je voulais, je suis parti d'abord en échange au Mexique. J'ai travaillé dans différentes ONG et quand j'ai continué, je me suis tout de suite vu repartir et je me suis installé au Pérou. Ça fait maintenant 17 ans, quelque chose comme ça.
Est-ce que tu pourrais m'expliquer, hein, donc voilà, quand on commence à voyager jeune, on se rend compte que le monde n'est qu'un seul pays, mais quand même avec une sacrée diversité. Toi, c'est plutôt l'Amérique latine, hein, qui t'a permis de t'enraciner ou de t'ancrer quelque part. Pourquoi ? Comment tu as choisi le pays ou le continent d'accueil ? Est-ce que tu as une explication ?
Disons que la langue a aidé. Moi, j'ai la famille qui parle espagnol. Ma grand-mère m'a appris l'espagnol, mes tantes vénézuéliennes aussi. Et quand j'ai voulu voyager à l'étranger, je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir parler la langue. Et bien sûr, après, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait aller plus loin. Et quand je me retrouvais au Mexique, qui avait des dizaines de langues autochtones, il y avait encore d'autres langues à apprendre. Mais disons que ça a été un super point d'entrée pour pouvoir aller me balader dans les communautés, dans les villages, dans les montagnes et parler avec les gens avec facilité, quoi.
Ici, dans les festivals ou en France, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'engouement, peut-être presque même un effet de mode autour de l'Amazonie, autour du cacao. On parle de plus en plus de cérémonies de cacao, autour des plantes médecines, de l'ayahuasca, le campo, le peyote pour le Mexique. Voilà. Est-ce que toi, quand tu as commencé à voyager dans ces pays-là, est-ce que tu avais déjà entendu parler des plantes médecines ou c'est quelque chose que tu as découvert là-bas en vivant au Pérou ?
Écoute, moi j'en avais assez peu entendu parler de tout ça. Un jour je me suis retrouvé dans un marché, dans un quartier de la ville de Mexico, et j'ai rencontré l'artisanat huichol. C'est un artisanat extraordinaire de couleurs fantastiques, avec beaucoup d'animaux qui sont représentés. J'ai trouvé ça fabuleux et j'ai voulu approfondir. Je me suis retrouvé dans une des fêtes principales de l'année qui est réalisée par les huichols, au moment où les chargés d'aller chercher les plantes sacrées reviennent dans leur village. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'existence de ces plantes-là. Et ça a commencé à cheminer dans ma tête. J'ai eu ensuite la chance de rencontrer une grande représentante de la tradition mazatèque à Huautla de Jiménez. Et tout ça a fait que, disons que j'ai approfondi. Dans un sens, ça m'est tombé dessus ou pas.
Donc toi, on reviendra à cette partie-là un peu plus tard, mais donc j'entends que tu es parti presque par facilité linguistique, hein, parce que tu parlais l'espagnol. Est-ce qu'il y avait un but dans tes premiers voyages, seul, quand tu es parti sur le continent sud-américain ?
Je crois que c'est vrai que je me suis retrouvé, tu vois, j'étais à la fac en échange, j'apprenais plein de trucs, c'était sur l'histoire du Mexique, l'histoire de l'Amérique latine, etc. Et bon, dès que je pouvais, je partais en voyage. J'avais un peu cette volonté d'aller au plus loin de ma culture, quoi, hein, d'essayer de comprendre ces autres modes de vie. Du coup, je me suis déplacé un peu aux quatre recoins du Mexique, et il se trouve que les communautés dans lesquelles je me suis retrouvé avaient des pratiques de médecine différentes, utilisaient des plantes dont j'avais aucune idée, avaient des résultats qui semblaient assez extraordinaires, en tout cas avaient des pratiques très mystérieuses pour moi à l'époque et qui m'ont fasciné, quoi.
Donc tu dis que tu es issu d'une famille de médecins, donc là tu découvres une autre forme de médecine. Donc toi qui culturellement et familièrement, ça se dit de manière familiale, en tout cas tu es habitué à une médecine très conventionnelle, comment est-ce que tu t'ouvres à ces médecines très alternatives où on joue avec l'invisible ?
Et c'est vrai que dans un premier temps c'était assez contre-intuitif de par ma culture, même j'ai probablement eu plus une approche culturel, tu vois, de connaître les coutumes et autres, plus que d'avoir un axe spécifique médecine. Et quand après je me rends compte que toutes ces personnes, toutes ces communautés utilisent des plantes qui peuvent avoir des effets très puissants sur le corps et qui considèrent le corps autrement, j'étais vraiment très surpris, très décalé, décentré dans mon approche. Et c'est vrai que ça faisait un peu, ça paraissait en tout cas dans un premier temps en contradiction avec ce qu'on m'avait appris moi, ce que j'avais vu pratiquer mon père, mon grand-père, mes oncles au quotidien, quoi.
Est-ce que tu confrontes tes parents, tes grands-pères, tes oncles à ce que tu découvres en Amérique ? Donc là on parle du Mexique, hein, donc dans l'Amérique du Nord.
Eh bien, en fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'ai gardé ça pour moi. J'ai, au fur et à mesure, approfondi d'année en année. J'ai continué à voyager, continué à sentir tout ça. Et je suis arrivé un peu à ce point où ça a pris une telle place dans ma vie. C'était tellement fondamental pour moi que bon, c'était difficile à cacher, disons. Et puis au bout d'un moment, au début, je me souviens, j'avais eu des premières discussions, c'était difficile. C'était, il y avait des levées de boucliers très vite. Je n'avais pas encore tenté la famille, j'étais plutôt auprès des amis et je voyais qu'il y avait des personnes pour qui c'était vraiment confrontant, quoi. Très dur à accepter. Donc ça m'avait un peu freiné. Et puis au bout d'un moment, surtout vis-à-vis de ma famille, je me suis dit qu'en fait, je ne pouvais pas continuer comme ça et que, en fait, j'ai un peu retourné le truc en disant, bah, si jamais je pouvais partager avec ça avec eux, ça serait merveilleux, ça serait chouette, ça serait enrichissant pour tout le monde. S'ils sont pas capables de m'écouter, ben, tant pis. En tout cas, c'est ma vérité, c'est celle que je porte et c'est ce qui, moi, m'a fait du bien aussi. Et c'était comme un processus de dire, moi, je reconnais tous les bienfaits que ces métiers-là ont pu me donner et donc c'est aussi l'envie d'en témoigner, quoi.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
De quoi on parle quand on parle de médecine? Donc là, tu me parles de plantes, c'est ça? Donc au Mexique, moi j'associe ça au peyote. Je me rappelle des écrits de Carlos Castaneda, un anthropologue qui avait un petit peu démocratisé l'usage des plantes en médecine dans les cultures. Je crois que c'était pas huichol, mais c'est peut-être yaqui. Comme tu disais, le Mexique est multiculturel. Donc voilà, de quoi parle-t-on quand on parle de plantes médecine? Reviens à cette époque de ta vie, comment tu les rencontres? Et peut-être nous partager une expérience. Une expérience qui a fait sens pour toi.
Eh bien, dans le cadre de ce voyage, c'était un échange d'un an au Mexique. Je me retrouve en suivant le chemin de l'artisanat huichol dans une communauté qui s'appelle Tateique, San Andrés Coamiata. Le jour où les peyoteros ramènent la récolte qu'ils ont fait à 800 km de là, un pèlerinage qu'ils faisaient avant à pied, maintenant plutôt un transport. Et je me retrouve, je suis invité par une famille, et je me retrouve, et cette famille-là, elle doit, pour recevoir les représentants, on leur donne du peyote, le jicuri, selon les huichols, qui ne s'appellent pas huichol pour eux, mais huirarica. Et du coup, je la vois absorber des quantités importantes de huichol, de jicuri. Et être dans un état de transe très puissant, donc ça me fait peur. Elle m'en donne un peu, je dis waouh, qu'est-ce que ça peut faire? Là, je me dis que bah, déjà je ressens ça comme un grand honneur d'être invité à cette découverte, à cette communion avec tout ce qui se passait autour de moi. C'était juste incroyable, quoi. J'arrive dans une... Tout le monde est en habit traditionnel, il y a des centaines de personnes, il y a des gens qui sont en train de boire de la chicha, il y a beaucoup de gens qui... Il y a différentes cérémonies qui se passent, tout étant huirarica, du coup je comprends évidemment pas vraiment grand-chose à ce qui se passe. Mais je sens bien que c'est un peu un des points de lien, de communion entre toute la communauté, c'est aussi cette plante et puis toute la cosmovision qu'elle implique. Et donc je me dis, allez, on y va.
Donc là, tu es seul et tu as quel âge?
Écoute, je devais avoir 21 ans. 21-22, ouais. Je me souviens qu'un mec me dit, ah, t'as de la chance d'en arriver là à 21 ans.
Et donc là, peyote, donc le peyote c'est un cactacé, hein. Peut-être que tu peux nous parler de ce que c'est que la plante, de sa fonction, de son rôle dans la culture mexicaine, et puis comment toi tu as vécu cette expérience, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui?
Maintenant j'ai 41 ans.
Donc voilà, qu'est-ce qui reste 20 ans plus tard?
Oh, la rencontre avec le jicuri et le peuple huirarica, ça a complètement changé ma vie. Le jicuri, en fait, il pousse dans le désert de Wirikuta. Et c'est le lieu d'un pèlerinage important qui est jalonné de beaucoup de lieux sacrés. Tout l'espace géographique est jalonné de lieux sacrés pour les Wirarika. Et le Rikuri fait partie d'une trilogie avec le maïs et le cerf, les cervidés. Et c'est lui qui donne connexion avec les autres mondes. Donc c'est là où, pour moi, j'envisage la possibilité de ces autres mondes. Et du coup, je commence à essayer de décortiquer mon cerveau pour lui donner la place à tout ce monde dont j'avais aucune, ou dont on m'avait peut-être parlé sous, dans d'autres vocabulaires, mais qui était... C'était pas le moment pour moi de le recevoir. Disons.
Tu peux nous parler de cet autre monde?
Pour moi, c'est témoigner, et après, c'est quelque chose qui aujourd'hui m'importe, enfin, auquel j'essaye de contribuer, quoi. C'est d'expliquer que pour des personnes comme les Wirarika, de ce que moi j'en ai compris, du peu que je peux en témoigner. En fait, ce niveau de réalité dans lequel on est, il n'est vraiment pas unique. Il y a beaucoup d'autres réalités possibles. Et il y a un lieu où évoluent des êtres, tout autant que nous, qu'on appelle dans certains contextes des esprits, qui sont des esprits de la nature, avec lesquels on peut entrer en communication, avec lesquels on peut entrer en rapport, en lien, et auprès desquels on est amené à montrer notre respect, échanger des bienfaits et vivre en reliance au quotidien.
Donc le peyote est une des portes d'entrée pour pouvoir accéder à cette autre réalité.
Et le peyote est, pour les Wirarika, une des portes d'entrée, et pour d'autres peuples qui vont travailler plus spécifiquement avec des plantes maîtresses, d'autres ne vont pas nécessairement travailler avec des plantes, mais ils manifestent de toute façon au quotidien ce rapport, cet échange, ce respect, cette union, ce travail constant de maintenir le lien, quoi.
Tu me disais sur ton stand que tu habites au Pérou depuis plus de 10 ans. Donc là, on est au Mexique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le Mexique et le Pérou? Pourquoi? Parce que là, je vois que la première vraie expérience marquante, initiatique pour toi, c'est donc passé au Mexique. Donc on aurait pu imaginer que tu restes là-bas. Mais non, tu es au Pérou. Donc raconte-nous la suite de l'aventure.
Ouais, effectivement. Pour moi, c'était un vrai coup de cœur de vivre au Mexique. J'y suis retourné à plusieurs reprises par la suite. Parce que j'avais. Je suis rentré, je continue mes études, j'ai changé d'études. Je voulais faire complètement autre chose, me rapprocher plus de la compréhension des peuples autochtones. Donc j'ai évolué plutôt vers l'anthropologie. Et il se posait la question de qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais me rendre utile. Je me posais vraiment cette question-là, quoi. Et du coup, il y a ces projets qui sont apparus.
Donc c'est à travers le boulot et les ONG, hein, c'est bien ça dont tu parles.
C'est ça, c'est que. Comme je disais, ça, pour moi, il y avait un peu un lien entre où j'allais vivre, où j'allais travailler, qu'est-ce que j'allais y faire, et c'est comme ça que j'ai trouvé un équilibre pour moi.
Sur le stand, un bouquin, père et fils. Parle-nous un peu de ce projet-là. Donc, tu as écrit un bouquin avec ton papa pour confronter vos visions et vos points de vue. C'est bien ça?
Exactement, ouais. Du coup, je racontais tout à l'heure qu'au bout d'un moment, je me suis dit que ça serait chouette d'échanger avec ma famille. Et il se trouve qu'on a beaucoup discuté avec mon père. Quand je revenais notamment d'Amazonie, après des périodes longues, qui était un peu aussi l'idée que bon, quand tu commences à passer des mois en Amazonie, il faut bien expliquer ce que tu vas y faire. Et donc j'ai commencé à ouvrir un peu ce dialogue. Et donc mon père, il se trouve qu'il est médecin, chercheur. Il a eu une trajectoire de médecine conventionnelle et il est très habitué à utiliser des articles scientifiques et autres. Et donc il a fait ses recherches, quoi. Et donc ce que je disais, il est allé voir dans les articles scientifiques où en était la science par rapport à cette thématique-là, quoi. Et au fur et à mesure, on a accumulé pas mal d'heures d'échanges, pas mal de références, et on s'est dit que ça pourrait être utile de le partager à deux, avec un peu deux idées derrière, que ce dialogue père et fils, cette espèce de thérapie familiale qu'on a réalisée d'année en année, à dialoguer tous les deux, ben, ça pouvait éventuellement être utile pour certains qui sont dans la même situation. Et en plus, derrière, il y a un peu le fait que voilà, il y a aussi deux visions de la médecine, deux façons de voir le monde qui se confrontent. Et on est dans un moment où il y a peut-être une porte ouverte, un intérêt à envisager que peut-être ces types de médecine pourraient nous être utiles. Et donc on a regardé un peu quelles étaient les pathologies pour lesquelles c'était déjà reconnu. Et il se trouve que dans la santé mentale, il y a plusieurs pathologies qui montrent des bénéfices incroyables grâce aux plantes en particulier.
Oui, parce que j'imagine que ben, même nos pharmacopées, nos médicaments sont pour la plupart faits à partir de molécules de plantes qui ont été isolées. Donc de tout temps, le règne végétal a permis de nourrir l'homme, de nous guérir, de nous tuer aussi quelquefois. Donc voilà, je crois que la pharmacie a compris depuis longtemps que des molécules pouvaient justement avoir une action sur le corps humain. Donc ton père, dans ses recherches, donc, il arrivait à valider quelque part tes dires à travers tes expériences.
Oui, dans un sens, lui, il avait son approche, faire des études cliniques avec ce qu'on appelle en double aveugle, avec des patients qui reçoivent un traitement, d'autres qui sont en placebo. Est-ce qu'il y a une signification statistique pour tout ça? Et moi, dans un sens, je suis là, je dis ouais, c'est bien que tu fasses ça, mais en même temps, ça va pas résoudre, ça va pas couvrir l'ensemble des bénéfices que peuvent apporter ces plantes. Toujours est-il que pour ce qui est de des addictions, des syndromes post-traumatiques, des dépressions résistantes au traitement, pour utiliser le vocabulaire, tu vois, la médecine conventionnelle, eh bien, l'ingestion de certaines plantes même une fois dans sa vie, ça donne des améliorations drastiques. Et voilà, les patients se sentent beaucoup mieux, trouvent des solutions à leurs problèmes, quoi.
Donc nous, ici, on a une connaissance très scientifique, mais là-bas, la connaissance n'est pas scientifique, elle est autre. Donc d'où vient tu parlais de double aveugle, ici des tests sont faits pour voir un peu mesurer l'impact de telle ou telle substance, telle ou telle plante sur telle ou telle pathologie. Mais là, on parle de forêt amazonienne, d'une vie radicalement différente, déconnectée de ce monde scientifique, et pourtant avec une connaissance du monde vivant et des plantes. Mais d'où vient cette connaissance dans ces peuples qu'on pourrait imaginer coupés du monde?
Voilà une question un peu un grand mystère, mais qu'on peut peut-être réussir à résoudre de manière un peu empirique, quoi, de la même façon que nos grands-mères, nos grands-pères savent utiliser le millepertuis pour telle problématique de santé mentale, mais à une certaine dose, parce que sinon ça pose des problèmes. On ne sait pas, en fait, il y a eu des essais, probablement des essais-erreurs. Et c'est vrai que quand on a, par exemple, une décoction comme l'ayahuasca, qui est le résultat de la combinaison de deux plantes qu'il faut combiner avec une proportion bien précise, ça reste complètement mystérieux et incroyable de savoir que voilà, il y a des peuples qui ont réussi à trouver cette alliance de plantes et résoudre autant de pathologies, soigner autant de maladies. arrive avec cette approche parfois un peu qui consiste à comptabiliser, me couper en morceaux. En fait, on voit bien qu'il y a peut-être une autre approche, quelque chose, une autre façon d'appréhender la santé, la connaissance, une autre technologie, quelque chose de très complexe, très sophistiqué. Et que jusqu'à maintenant, on avait peut-être mis de côté avec nos développements de la science occidentale et qu'on recommence à reconsidérer. On fait un peu ce rattrapage de se dire, effectivement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de solutions et de connaissances très profondes, très, très utiles qui sont là chez nos voisins, quoi.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un récit, un mythe ou une croyance qui serait celle de dire qu'on peut parler à l'esprit de la plante et qui, elle, va nous accompagner, nous dire, bah tiens, en nous consommant de telle ou telle manière, avec telle et telle quantité, tu peux guérir telle et telle chose. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce récit-là?
Ça, c'est vraiment un super récit qui fait une des bases, en tout cas dans la tradition Shipibo-Kunibo que je connais un peu plus, et il y racontait comment l'esprit de telle plante a été à communiquer dans les rêves à un ancien qui pouvait être combiné à tel autre esprit, et au-delà des rêves, des histoires qui sont racontées de génération en génération, en fait il y a une pratique au quotidien qui fait que les gens reçoivent des messages des esprits des plantes, et en fait c'est quelque chose de normal, c'est pas quelque chose qui est réservé à des personnes psychotiques ou malades, sinon que c'est des personnes qui au contraire ont la chance de pouvoir rentrer en contact avec le monde végétal, pouvoir aborder des esprits et dialoguer avec eux et recevoir des enseignements qui vont leur permettre d'aider leurs proches, leur communauté, les personnes qui viennent les voir parfois de très loin pour un peu de soulagement dans leur au quotidien.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je veux bien qu'on en parle un petit peu, parce que l'idée, c'est pas qu'on idéalise ou qu'on fantasme les plantes médecines. Donc tu dis qu'il y a aussi des expériences négatives.
Tout à fait. Bon, à la hauteur des attentes que chacun peut avoir, du niveau parfois de détresse dans lesquelles les personnes se trouvent quand elles font appel à ces médecines-là, c'est un enjeu, c'est un risque que d'aller vers un autre mode de médecine. Et c'est vrai qu'il se trouve que les personnes peuvent être aussi dans une situation de vulnérabilité. Et dans ces situations-là, ben, il se trouve que tu peux être amené à croire des choses qui, dans un autre contexte, tu ne croirais pas. Et donc, il y a des personnes à qui on donne les plantes, pas la bonne plante. Bien sûr, il y a des contre-indications là, d'un point de vue plus spécifique. Si tu prends certains médicaments, tu ne peux absolument pas utiliser certaines plantes. C'est danger de mort. Donc, il y a eu des dangers, il y a eu des morts autour de ça. D'ailleurs, si j'ai bien compris, l'interdiction en France de l'utilisation de l'ayahuasca, elle a été légiférée à la suite d'un de ces accidents. Et quelqu'un qui malheureusement a perdu la vie du fait d'une interaction médicamenteuse, on dirait. Donc ça c'est un des points, mais il y a aussi des grands chocs, comme on ouvre un autre monde, mais en fait, après qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais vivre avec cette autre réalité, sachant que personne autour de moi n'a jamais vécu ça? Donc qui est-ce qui est capable de me dire, bah, t'inquiète, c'est normal, et ça tu peux le mettre dans telle case, parce que en fait ça fait partie effectivement d'un autre monde, voilà comment ça s'organise. Ça peut être très difficile à ingérer, quoi. Ça c'est une problématique. Après, il y a une sorte de... Il y a des personnes qui se retrouvent un peu coincées, c'est-à-dire qu'elles ont un message incompréhensible, parfois d'assez grandes souffrances, des manifestations corporelles très fortes et autres.